Hey. How you doing?
Bienvenue au bureau des légendes.
Somebody royally forked up.
Un épisode et j'arrête.
Dracarys.
Une émission présentée par l'ACS.
C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. Déviré.
L'association des critiques de séries en partenariat avec Beta Série, la radio.
These violent delights have violent ends.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Un épisode des Jarrettes, le podcast ou émission en balado de diffusion de l'ACS, l'Association française des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Loin de nous l'idée à travers cette émission de reproduire les travers visant à cantonner l'animation à un genre de série, car il n'en est pas un. Et c'est une idée reçue qui réduit la diversité de l'industrie et sa pléthore de techniques. Pourtant, n'en déplaise aux séries en prise de vue réelle, la créativité des séries d'animation a été décuplée au cours des 5 dernières années. Certaines d'entre elles ne se cantonnent plus au côté déjanté et de la gratification instantanée des cartoons pour faire des incursions dramatiques, voire brutales. D'autres y vont à fond dans l'attitude décomplexée pour représenter des thèmes impensables dans une série en prise de vue réelle. Mais l'art va souvent de pair avec le business, et il aura fallu attendre le succès de Rick et Morty pour avoir droit à une déclinaison française de la chaîne la plus spécialisée en matière d'animation adulte, Adult Swim. C'était en juillet 2019, il y a un peu plus d'un an. Depuis, les projets outre-Atlantique se sont multipliés et des chaînes comme Sci-Fi offrent leur antenne à de nouveaux talents. Je suis Florian Etcheverry des Écrans Terribles et Rokirama, et aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon non exhaustif de l'offre actuelle avec trois critiques de l'ACS. Yves Lecor de Brain Magazine, bonjour.
Salut.
Alexandre Buyukodabas des Inrock, bonjour.
Salut.
Et Ilan Ferry de Lire.
Allô.
Alors, pour commencer, je me disais que c'était intéressant de commencer avec un peu les grands-papas de l'animation adulte américaine, parce qu'on en est déjà à la deuxième, voire troisième génération de séries d'animation qui ne sont pas destinées qu'à un public, qui ne sont pas destinées du tout à un public jeunesse. Et les grands-papas, c'est bien sûr South Park, qui est actuellement diffusé sur Game One et dont l'intégrale ou la quasi-intégrale est disponible à la fois sur Amazon Prime et Netflix.
I am very proud to announce a pandemic special.
They're gonna try and make us go back to school.
You really want to go back to that slavery?
Yo, get out of my house! You could be spreading germs!
Welcome back to class. I'm your new teacher, Detective Harris.
You guys don't seem totally stoked.
A pandemic special, Randy? Really?
Et il y a aussi la série Robot Chicken qui est probablement la série la plus vieille avec The Venture Brothers de Adult Swim et qui était diffusée sur Canal Street à l'époque et puis MCM. Et maintenant, dont les épisodes inédits sont diffusés sur Adult Swim en France. Ce qui est intéressant, c'est que les séries perdurent depuis 15, voire 20 ou 23 ans pour South Park avec un public qui était acquis dans les deux cas. Un format qui est assez indépendant, il n'y a pas peu de feuilletonnants dans le cas de South Park comme de Robot Chicken, qui est assez court, donc 12 minutes dans le cas de Robot Chicken et 22-23 minutes dans le cas de South Park, et surtout qui est basé sur la parodie et des idées autour de personnages de la pop culture et existants sous forme de figurines dans le cas de Robot Chicken. Et dans le cas de South Park, ce qui a permis leur succès, c'est leur capacité à rebondir quasiment en temps réel sur l'actualité, puisque lors des saisons les plus récentes, en fait, on produit un épisode de South Park ne prenait que 6 à 7 jours avant mise à l'antenne. Et malgré donc ces programmes qui perdurent et qui ont public qui est acquis, c'est un genre qui était pourtant encore en retrait dans la production d'animation internationale. Et ce qui a permis ou ce qui a contribué à permettre ce changement et donc ce renouveau dans l'animation adulte, c'est l'arrivée en fin 2013 de Rick et Morty aux États-Unis sur Adult Swim. Donc, dès la première saison, il y a eu un bouche-à-oreille grandissant jusqu'à la diffusion sur France 4 en France courant 2015, puis sa mise à disposition sur Netflix en France. Et donc, je voulais commencer par cet engouement qui, comme je le disais en intro, a permis donc l'arrivée de Adult Swim en France, puisque en annonçant leur arrivée en France, ils ont aussi annoncé la diffusion en exclusivité de la saison 4 qui avait démarré il y a pile un an, en novembre dernier. Et je voulais un tout petit peu vous demander à vous tous, qu'est-ce qui fait que par rapport aux autres tentatives qui ont eu lieu ces 10 dernières années, qu'est-ce qui fait que Rick et Morty a fonctionné. Qui veut commencer entre Yves ? Donc Yves, je le vois lever la main, c'est également le seul en vidéo.
Pour un peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément Adult Swim et tous ces... et tout le corollaire à toutes ces séries qui tournent autour de qui ont été diffusées par cette chaîne avant d'arriver chez nous par différents canaux, c'est vrai que Rick et Morty c'est un bon point d'entrée, je dirais, parce que ça résume un peu le style de cette chaîne, de cette plateforme, ou cette chaîne plutôt, dans l'idée où on est sur du pur geek, du pur hommage à un univers de geek, c'est-à-dire là, on peut dire littéralement, quand on regarde le premier épisode, qu'on peut très vite se dire, en fait, on est en train de voir une parodie de Retour vers le futur, avec un personnage de scientifique et un jeune homme qui est là, s'avère être son petit-fils, qui le suit dans des aventures dans le temps, plus que dans l'histoire, pour le coup. Mais, et aussi cet aspect où l'humour, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup dans les séries de Swim, où l'humour est très glauque, un humour extrêmement, extrêmement dépressif, limite, où on rit, mais on est aussi pris un peu par des émotions un peu contradictoires une façon de traiter, matraquer, à la différence de South Park qui matraquait l'actualité, matraquer la famille, matraquer les systèmes de la famille et la société. Qui est très symptomatique de ces séries et qui est vraiment très représentée dans cette série qui est la plus populaire, Rick et Morty.
Ce qui est très fort, je trouve, avec Rick et Morty, je crois qu'on peut le trouver dans sa filiation avec la série Community, qui était aussi créée par Dan Harmon, c'est que c'est vraiment des espèces comme ça de machinerie comique, presque comme de lessiveuse à tout ce qui peut... tout ce qui peut être parodié en termes de pop culture, en termes de référents culturels, en termes même de concepts. Dans Rick et Morty, on part très très loin dans l'exploration de concepts. Ça dépend des épisodes, mais il y a les concepts du multivers, il y a les concepts de voyage dans le temps. Il y a énormément de concepts comme ça qui sont mis en scène, qui sont vraiment explosés hors du cadre de toute narration. Et ça, c'est quelque chose qui était déjà à l'œuvre dans Community, qui s'amusait à parodier des formats, à parodier des genres de cinéma dans chacun de ces épisodes. Le concept vraiment un peu de bottle episode, j'ai l'impression, marche très très bien dans Rick et Morty. Et souvent, j'ai l'impression qu'on commence à regarder cette série en ayant entendu parler d'un épisode en particulier, d'un épisode choc. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont raccroché le wagon avec l'épisode Pickle Rick en saison 3. Je pense qu'il y a comme ça des épisodes marquants qui font vraiment office de porte d'entrée dans la série.
Rick, enfin le Pickle Rick en fait, qui est l'épisode de la saison 3 où Rick essaie de survivre en se transformant en cornichon et qui a ensuite des débouchés sur pas mal de merchandising, dont des cornichons géants à l'effigie de Rick. Voilà, donc pour rappel, c'était ça. Mais c'est vrai que Rick et Morty, tout comme Community, ont cet amour du concept et du nihilisme dans les concepts. Et donc, ils traitent leur concept et leur idée centrale de manière très sérieuse, tout en faisant semblant souvent de ne pas le traiter au sérieux, justement. Donc, c'est toujours une espèce d'exercice d'équilibriste. Ilan, est-ce que tu as d'autres raisons à évoquer concernant le succès international de Rick et Morty ?
Je pense que le succès de Rick et Morty tient aussi à tous ces motifs, finalement, la pop culture que Rick et Morty invoque et déstructure et un peu joue un peu le rôle d'iconoclaste de la pop culture. Je pense que c'est quelque chose dont on a conscience, effectivement, quand on est connaisseur de travail de Dan Harmon, Community. En voyant Community, on comprend le rapport que Harmon entretient avec la pop culture, à quel point tous ces motifs-là peuvent être fédérateurs. Mais moi, ce qui m'avait surtout beaucoup intrigué, on va dire, ou plutôt interpellé dans Rick et Morty, c'est outre effectivement l'esprit de Dan Harmon, c'est l'esprit très très adult swim. Je veux, par exemple, ce court-métrage, ce faux court-métrage qu'avait diffusé Adult Swim, qui était une espèce de, on va dire, de coup de poker qui s'appelait Too Many Cooks, qui était une parodie, qui commençait comme une parodie de sitcom des années 90. Ah, et qui petit à petit, qui était élongué sur plusieurs dizaines, sur une dizaine de minutes, et qui petit à petit devenait de plus en plus inquiétant. Et il y a cette espèce d'inquiétante étrangeté, on va dire, inhérente à la fois au programme d'Adult Swim et de Rick et Morty, qui fait qu'à un moment donné, il casse tous les codes, mais qu'on s'y retrouve. Quelque part, on s'y retrouve parce que, voilà, ça évoque des choses chez nous, comme le disait Yves, assez contradictoires. Il y a à la fois un plaisir et une inquiétude dans tout ce qu'on voit, et je pense que c'est cette espèce de dichotomie qui fait qu'on se retrouve dans Rick et Morty.
Juste pour terminer, enfin, peut-être pour rajouter quelque chose là-dessus, c'est vrai que on a l'impression que Rick et Morty montre un peu ses muscles, il y a comme ça des grosses mécaniques narratives, mais au final, ce qui nous a, je pense, accroché à la série, c'est aussi la profonde mélancolie qu'elle distille parfois. Il y a quand même des choses très très graves, en fait, au final, de la solitude des personnages, leur mélancolie, qui au final, en tout cas, moi, m'a profondément marqué, et que j'ai un peu perdu d'ailleurs dans la dernière saison de Rick et Morty, qui retrouvait une forme d'attache au concept, à quelque chose comme ça de très ostentatoire, alors que j'ai des souvenirs vraiment de, enfin, Rick comme Morty, c'est des personnages extrêmement seuls, complètement paumés, qui dérivent dans le vide intersidéral en essayant de trouver un sens à leur vie, en fait, derrière toute leur agitation.
On est peut-être à la limite de la saison de trop, on ne sait pas trop, là justement, ouais, c'est vrai que est-ce qu'il tourne déjà en boucle, est-ce qu'il est parti sur autre chose, c'est vrai que c'était un peu plus... Mais c'est aussi relié à l'attente qu'il y a de Rick et Morty, le créateur se prend tellement la tête, a tellement peur, se met tellement la pression depuis que ce programme est devenu culte, que du coup on est sur quelque chose où du coup chaque épisode est très attendu, et ça dure des mois voire des années depuis jusqu'à la dernière saison, et du coup il y a peut-être cette attente qui va peut-être un peu flinguer le concept et flinguer la série pour le coup. Il faut espérer juste qu'à un moment il continue dans son délire et qu'il s'en foute un peu de comment les gens perçoivent la chose, je pense.
Et justement, enfin, on parlait beaucoup de Dan Harmon qui se prend beaucoup la tête justement à pondre des nouveaux épisodes. C'est vrai qu'il y a des scénaristes avec lui. Il y a aussi le co-créateur qui fournit les voix à la fois de Rick et Morty, qui est Justin Roiland. Même si la saison 4 peut être vue comme la saison de trop, en réalité, la série est partie pour durer beaucoup plus de saisons, puisque il y a eu un renouvellement surprise donc pendant le long hiatus entre la saison 3 et 4, où Adult Swim a décidé de renouveler la série pour 70 épisodes de plus, ce qui va permettre d'avoir des épisodes au moins pour les 7 ou 8 années à venir. Donc à savoir s'ils vont tenir le coup. On parlait des thèmes de dépression et de solitude, et donc un an plus tard, le premier programme d'animation adulte de Netflix a fait aussi un peu écho à ces thèmes. Ça s'appelle BoJack Horseman. C'était un des premiers projets de la société d'animation de l'ex-PDG de Walt Disney Company, qui s'appelle Michael Eisner, qui pour le coup est parti dans un tout autre délire. La société s'appelle Tornant. Le créateur s'appelle Raphaël Vaxberg. Et l'idée, c'est un cheval, donc BoJack Horseman, c'est un cheval anthropomorphique, donc avec un physique humain, qui est une ex-star de sitcom des années 1990 qui s'appelle Horse in Around, et que l'on suit donc des années plus tard en tant que has-been dans un Hollywood, on va dire, quasiment plus vrai que nature. Et donc ça, c'est une série aussi qui a connu un franc succès et qui s'est conclue donc au terme de la sixième saison, un peu plus tôt cette année. Et en 2017, il y a eu l'arrivée de Big Mouth, qui a été co-créé par des amis d'enfance qui étaient Nick Kroll, qui est un comédien assez connu, et Andrew Goldberg, et qui décrivait la prépuberté totalement sans complexe en s'inspirant des propres expériences de ses co-créateurs.
Hello, my precious little ravioli.
Shh, quiet, baby.
What are you?
I am the hormone monstrous.
Hey. Listen to me. You want to shoplift lipstick? You want to listen to Lana Del Rey on repeat while you cut up all your t-shirts? You want to scream at your mother and then laugh at her tears?
But I don't want to scream at my mom.
She's not your mom anymore.
From now on, you call her Shannon. Don't use deodorant, and I only take bubble baths.
Donc, au niveau de, donc de l'incursion de Netflix et de ces deux succès, est-ce que voilà, il y a des choses à dire, par exemple sur BoJack Horseman. Est-ce que quelqu'un, enfin, est-ce que autour de cette table virtuelle, tout le monde a vu la série et ses 6 saisons?
Oui. Pas vu.
Qui veut commencer? Ilan, peut-être?
Bah, ce qui est assez troublant dans BoJack Horseman, pardon, c'est exemple par ailleurs de la tristesse de Rick et Morty. On peut dire que dans BoJack, il y a quelque chose de l'ordre du désespoir, mais qui va aller de saison en saison. C'est-à-dire, moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal avec la première saison. Et puis, au fur et à mesure, je voyais vers quoi la série voulait tendre et le désespoir vers lequel est tendre, et je me suis rendu compte que c'était une série qui était beaucoup plus grave que son postulat de départ, que le côté un peu grotesque de l'animation, des personnages, pour tendre vers quelque chose de même limite très, très déprimant, très, très sombre. Et je pense qu'à travers BoJack Horseman, BoJack Horseman dit beaucoup de choses sur l'âme humaine, paradoxalement, qui en fait une série qui, je trouve, s'est bonifiée avec le temps et au fur et à mesure des saisons, et savait pertinemment où elle allait jusqu'à sa fin.
Et Alexandre?
Oui, je voulais rejoindre Ilan là-dessus. C'est vrai que BoJack Horseman, c'est une série qui met un petit peu du temps à dévoiler sa réelle ambition. C'est une série où où le comique est très très agité, ça fourmille de détails en arrière-plan, et qui peut paraître des fois un petit peu fatigante, qui peut être un peu épuisante. Et au final, la trajectoire de la série, c'est vraiment de regarder un homme tomber, ou de regarder un cheval plus exactement tomber. Et c'est, en fait, finalement, tout son programme était contenu dans son générique qui montre exactement ça, le personnage qui tombe à travers différentes strates de sa vie. Et il a fallu 8 saisons qui se bonifient effectivement avec le temps pour décomposer cette trajectoire, en fait, de chute, de dépression. Et c'était finalement assez bouleversant.
Yvan?
Je peux rebondir un peu justement sur ce que dit Alexandre. Sur le côté épuisant, c'est vrai qu'il y a, c'est un trait commun à toutes ces séries qui ont des formats très courts et qui sont vraiment remplis de comiques, en fait, remplis de situations comiques. Ça dépasse, je trouve, en vitesse, personnellement, ce qu'on peut trouver dans les séries comiques en général live. C'est comme une volonté de bourrer de gags. On n'a même pas le temps de rire du premier, qu'il y en a déjà 2 ou 3 qui sont passés. C'est un peu un trait commun de toutes ces séries, ce qui les rend aussi un peu... on pourrait presque les voir au ralenti. Et il y avait même ça dans BoJack Horseman, ce côté on remplit de gags, même si du coup le fond est toujours assez dépressif. Et surtout, moi, je trouvais beaucoup très dur envers la famille dysfonctionnelle, à travers tout ça. Toutes ces séries attaquent la famille beaucoup plus fort que ce que faisaient les Simpsons, la précurseur de toutes ces séries qui atteint cette année son 700e épisode. Il y a une énergie qui va même dans le trop-plein, qui donne presque parfois l'impression que c'est plus des pastilles, en fait, ces séries comiques. Mais BoJack Horseman, justement, dépasse un peu le cadre et a réussi, avec Rick et Morty, je trouvais, à essayer de dire, attention, vous regardez, il y a énormément de gags, il y a beaucoup d'humour, mais derrière, on a aussi un fond, et ça donne un peu d'air, justement, dans ces séries qui sont dans ces séries qui sont à fond, dans l'idée de ne pas lasser les gens, de leur envoyer du gag en permanence, l'école South Park, l'école aussi de Robot Chicken, par exemple, où ça va tellement vite, t'as même pas le temps de rire, en fait. Donc ouais, je trouvais que c'est un peu cette idée, BoJack a un peu passé à l'étape supérieure.
C'est peut-être dû au fait que les modèles principaux de BoJack sont peut-être pas à trouver dans l'animation, mais plutôt du côté de tout un pan de la comédie, enfin des séries comiques américaines, on va dire, qui serait né avec Seinfeld, qui se serait prolongé avec Curb Your Enthusiasm ou Louis, c'est-à-dire des séries comico-dépressives à la première personne qui mettent en scène aussi l'industrie du spectacle et tous ses travers.
Et il y a aussi, quelque chose dans BoJack Horseman où on traite le personnage central au sérieux. Et contrairement donc à South Park, les Simpsons, etc., ou même Seinfeld et Curb, où les personnages en fait évoluent vraiment assez peu, BoJack Horseman, on lui fait avoir en vrai, non seulement on lui fait avoir en vrai parcours de personnage, et on essaie de nous présenter autre chose que l'anti-héros et le entre guillemets connard qui est de celui de la première saison. L'autre avantage en fait de BoJack Horseman, contrairement à Rick et Morty, qui avait des noms comme Sarah Chalk, que l'on connaît comme Scrubs, c'est que quasiment toutes les voix de Rick et Morty sont des têtes connues de la comédie américaine. Donc il y a Alison Brie de Community qui a ensuite joué dans Glow. Il y a donc le BoJack est joué et avec la voix de Will Arnett en VO. Et il y a aussi Paul F. Tompkins, qui est aussi connu dans les cercles de la comédie US pour être un des protagonistes de comédie Bang Bang, je crois. Et donc c'est déjà tout un cast de stars qui a fait que la série était beaucoup plus visible dès son lancement, sans oublier Aaron Paul qui débarquait en voix de cartoon post Breaking Bad. Donc ça a un peu aussi aidé à la notoriété. Est-ce que au niveau de Big Mouth, puisque je parlais du fait que Big Mouth qui va avoir une quatrième saison en décembre sur Netflix, Big Mouth c'est un tout petit peu différent, c'est que Big Mouth c'est encore plus un cartoon que les deux, à mon sens c'est un peu plus un cartoon que les deux précédentes séries que l'on vient de mentionner, et je voulais savoir justement si ce qu'accomplit Big Mouth est impossible en série à prise de vue réelle, c'est-à-dire que là en l'occurrence donc on aborde la puberté et un tout petit peu l'éveil à la sexualité de manière extrêmement crue et extrêmement frontale. Donc c'est une série qui parle de personnages qui ont 12-13 ans, mais qui sont clairement faits pour des téléspectateurs qui ont minimum 17-18 ans. Et c'est vrai que ce genre de thèmes en fait ils sont toujours abordés avec des comédies lycéennes, des comédies à l'American Pie, etc. Donc est-ce qu'une série comme Big Mouth et les extrêmes que l'on a vu sur les trois saisons serait absolument impossible dans une série en prise de vue réelle?
Moi j'ai par exemple d'y penser justement, je pensais justement à un film qui avait joué dans la même catégorie qui s'appelait The Good Boys, qui est sorti en 2019, où on faisait dire des trucs déments aux enfants.
Qui était produit par Seth Rogen et Evan Goldberg, effectivement.
Et qui faisait une bande-annonce, du coup, qui est assez intéressante, c'est pour faire un parallèle, on est plein de moments de série, mais pour faire un parallèle avec la série, justement, Big Mouth, c'est qu'il faisait une bande-annonce où il disait, voilà, je vous avez joué dans un film, je ne peux pas vous montrer la bande-annonce parce que c'est interdit, vous n'avez pas l'âge pour regarder la bande-annonce du film dans lequel vous avez joué, parce que ce que vous dites dans le film... vous le rend interdit. En fait. Ils n'avaient pas le droit, les acteurs gamins, de voir le film dans lequel ils avaient joué par rapport à ce qu'ils pouvaient dire, en fait. Et si on regarde en comparaison, c'était moins trash, mais un Freaks and Geeks à l'époque balançait des thèmes aussi un peu plus adultes dans des bouches d'enfants. Aussi, mais c'est vrai que on peut pas dire le contraire que avec des enfants, et South Park est un très bon exemple, on peut faire dire énormément de choses à des personnages d'enfants en forme cartoon qu'on ne pourrait pas faire dire à des enfants live, en fait.
Quelqu'un d'autre pour s'exprimer sur le sujet?
Oui, je veux bien. Au final, c'est vrai que sur Netflix, on a aussi Sex Education quand même, qui est bon, avec des personnages un petit peu plus vieux, qui sont au lycée, qui sont, on imagine, incarnés par des acteurs jeunes adultes peut-être, mais dans Sex Education on a aussi comme ça un rapport, une façon d'aborder la sexualité adolescente de manière très crue, très décomplexée, et surtout de poser un dialogue autour en fait de faire circuler la parole vraiment autour de la sexualité. Et c'est aussi de manière évidemment beaucoup plus loufoque parce que l'animation lui permet ça, au final c'est aussi une circulation de la parole autour de la sexualité que met en place Big Mouth.
Décomplexé complètement, ouais, pour le coup. Les deux séries sont assez proches là-dessus, sur le fait de décomplexer la sexualité, c'est clair.
Merci Yves. L'autre partie en fait de ce renouveau des séries d'animation adultes, c'est des séries qui font dans la satire sociale un tout petit peu comme South Park, mais pour les communautés. Donc il y a eu deux programmes en fait qui s'appellent The Boondocks et Black Dynamite. The original Mac is back. Hotter than bombs. Cooler than bullets. Nobody shoots his load at Black Dynamite's face and lives to tell about it. The only thing more explosive than dynamite is Black Dynamite. It has an ass and it can be kicked, and Black Dynamite leaves no ass unkicked. Can you dig it? Because it's one thing to get your ass kicked. Black Dynamite, what are you doing? Just staying behind, you sucker. It's a whole nother to get your mind blown. Mr. Rogers, you ain't the only one that mastered the ancient art of Karatekin Kung Fu! Get ready for the return of the coolest cat around. Let's roll. Black Dynamite returns Saturday at 10:30.
And what you gonna do about it, Black Dynamite? You gonna hit an old lady?
If you wanna see it, ask your mama.
Dynamite! Dynamite!
Alors, The Boondocks, en fait, à ma connaissance, c'était inédit en France. Hein. Je crois que ça n'a jamais été diffusé. Hein.
Sur la diffusion, là, je vois pas. Oui.
Je crois que c'est resté inédit en France, hein. Mais ça a connu un gros succès, une grosse popularité lors de la diffusion. Donc, pareil, au milieu des années 2000 sur Adult Swim. Donc, The Boondocks, c'est l'adaptation d'un comic book, un comic strip, donc avec des cartoons en trois cases ou moins de Aaron McGruder, et donc qui satirisait, donc là aussi avec deux jeunes personnages afro-américains, donc qui voient un tout petit peu la déliquescence et un tout petit peu les délires auxquels ça donne à la fois leur entourage, leur famille et leur communauté. Et un des animateurs et un des éléments principaux de l'équipe de The Boondocks, qui s'appelle Carl Jones, a ensuite aidé à l'adaptation d'une satire de la Blaxploitation des années 70, qui s'appelait Black Dynamite. Donc le film est sorti, je crois, en 2006-2007, et la série était longtemps restée inédite, et donc elle a débarqué en fin d'année dernière, et donc là il y a deux, elle a été après annulée après deux saisons, mais elle est disponible actuellement en France sur Adult Swim en replay. Et dans les deux cas, en fait, c'est une satire qui est extrêmement féroce, en fait, avec beaucoup de références qui pourraient peut-être passer au-dessus de la tête du public français. C'est donc il y a un côté qui est assez niche, mais il y a aussi beaucoup de maestria dans l'animation. L'animation qui d'ailleurs a, je crois, dans les deux cas a été fait par un studio d'animation indépendant qui vraiment s'est fait a fait ses armes un tout petit peu avec Black Dynamite et d'autres séries du même acabit qui s'appelle Titmouse, et la qualité d'animation de ces séries et le budget qui est alloué à des séries qui sont qui sont pas forcément ambitieuses, mais qui restent dans la satire, est quand même assez remarquable. Et donc dans les deux cas, Adult Swim en fait a quand même imposé un standard de qualité et a quand même permis l'ascension de studios indépendants d'animation. Et ça a été aussi le cas un tout petit peu plus près de chez nous avec une série qui s'appelle Primal. Alors Primal, c'est une série d'aventures préhistoriques gore qui est sans dialogue ou presque. Et derrière Primal, en fait, on retrouve un habitué de la maison mère de Adult Swim, qui est Cartoon Network, qui s'appelle Gendy Tartakovsky. Gendy Tartakovsky, je ne sais pas pourquoi je répète le nom deux fois, mais voilà. C'est le créateur de Samurai Jack, qui a duré 5 saisons et qui a terminé sa diffusion sur Adult Swim, et aussi le laboratoire de Dexter. Et avec Primal, en fait, il pousse euh, il pousse un tout petit peu l'animation et les combats de Jack dans Samurai Jack dans ses derniers retranchements. Et pour ce faire, il n'a pas fait appel à un studio d'animation américain, il a fait appel à un studio d'animation française qui s'appelle La Cachette. Et donc, il y a 10 épisodes qui ont été diffusés, 5 l'année dernière, 5 donc depuis octobre. Donc, je crois que ça vient de terminer sa diffusion. Et je crois que c'était Alexandre qui voulait en parler.
Ouais, sur Primal, du coup, qui est vraiment une série en immersion dans une préhistoire dans laquelle un homme préhistorique et un dinosaure se mettent à cohabiter de manière plus ou moins houleuse après le massacre de leurs familles respectives. Ce qui est très très fort, c'est vraiment voilà ce sentiment d'immersion totale où on a pas de dialogue, on a uniquement de la musique et une bande sonore qui est très très élaborée et assez dingue, il faut le dire. Et comment dire, je trouve que tout concourt dans la série vraiment à rendre compte de la sauvagerie du monde de cette époque-là, de la violence de cette époque-là, que ça soit en termes de narration, c'est très très gore, il y a vraiment des pattes de dinosaures arrachées, du sang qui coule, des serpents venimeux complètement fous, mais aussi en termes d'image, il s'autorise vraiment plein d'audaces colorées, plein d'audaces lumineuses, des plans en ombre chinoise, des éclairs, toute la série est vraiment comme ça, une espèce de petit silex sauvage et très tranchant qui est assez impressionnante. Après, c'est vrai qu'au bout de 5 épisodes, ça tourne peut-être un petit peu en rond et on peut se lasser un petit peu des péripéties de ce drôle de duo homme-animal.
Quelqu'un d'autre veut évoquer la série ? Yves ?
Ouais, je pense que là-dessus, il y a comme toute une frange de séries animées qui ne sont pas du tout dans le comique, pour le coup, et qui sont vraiment dans l'action. Et moi, ça me fait penser à plusieurs autres séries, donc en effet Samurai Jack, donc forcément même auteur, donc même style, mais il y a ce côté nihiliste, genre vraiment purement action, qu'on retrouvait aussi dans des séries comme Star Wars Clone Wars, où c'était vraiment du combat sans arrêt, vraiment les séquences d'action de Star Wars, mais en continu en fait dans toutes les saisons. Et si on revient rétrospectivement, c'est peut-être un peu l'école de la Warner avec Batman, Batman des élites de série qui fait partie de ces séries qui, dans les années 90, donc on appelait Batman Taz, Batman The Animated Series, qui dans les années 90 ont donné un peu cette sensation, ils ont carrément poussé les séries animées des enfants vers les adultes. Donc à l'époque, c'était les deux étaient servis, hein, pour le coup. C'était pas que les adultes. Là, c'était vraiment les enfants entraient dans l'univers de Batman et les adultes retrouvaient Batman. Et donc, ils ont montré qu'on pouvait faire quelque chose de plus adulte avec une série animée. Et ça a été enquillé derrière avec toutes les séries qu'ils ont pu lancer sur l'univers DC, avec Justice League, avec Superman, etc. Et quelque part, c'est un peu les enfants de ça, parce que ces épisodes de Batman, qui étaient aussi courts, hein, mais de la Justice League, étaient à fond dans l'action aussi. Beaucoup plus dialogués pour le coup, mais c'est un peu comme si c'était une extension encore plus extrême, on va dire, à ces séries Primal ou Samurai Jack, ou moi je dirais, j'inclurais dedans Clone Wars. Serait vraiment un peu les descendants de ces séries qui sont dans le pur action et dans le style visuel.
Et d'ailleurs, pour rebondir sur Batman The Animated Series, la série également notable puisqu'elle a ajouté un personnage célèbre à la mythologie de Gotham, qui est celui de Harley Quinn, qui avait été créé, je crois, par Paul Dini pour les besoins de la série. Et donc Harley Quinn, qui donc a eu une déclinaison cinéma, donc avec Margot Robbie, donc d'abord dans Suicide Squad, puis donc dans Birds of Prey, qui est sorti il y a quelques mois. Et il y a aussi une série animée DC Universe qui, pour le coup, n'est pas du tout pour les enfants, qui s'adresse à un public adulte, avec Kaley Cuoco de Big Bang Theory qui fait la voix de Harley Quinn en fait, et avec une animation que personnellement je trouve assez proche de Batman The Animated Series, sauf que la série est extrêmement et extrêmement aussi violente et extrêmement il y a un vrai langage de Chartier, et ce sont, je crois, les créateurs de Powerless en fait qui sont à l'origine de la série, et la série est diffusée sur Toonami depuis début octobre. Yves, tu voulais rajouter quelque chose?
Je trouve que par rapport à ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur Boondocks et sur Black. Excusez-moi, j'ai un trou là d'un coup.
Black Dynamite.
Black Dynamite et Boondocks, ce qui s'est passé avec la série Harley Quinn, c'est que Boondocks et Black Dynamite amené une culture black dans les séries animées, la mettait très en avant et montrait les conflits blancs-noirs aux États-Unis. Surtout Boondocks, qui est très politisé. Pour le coup, dans la série Harley Quinn, on a le premier couple officiel lesbien qui est affiché dans la série, et qui révolutionne aussi un peu le genre, parce que la série est gore, la série est fun, mais rajoute aussi ce petit aspect qui fait que un peu plus on fait percer un peu, on fait avancer un peu le débat, quoi. Et pour ça, elle a été vraiment reconnue, apparemment un peu plus que ce qu'elle en a l'air, cette série, pour cette avancée sur ces thèmes-là.
Et on a parlé de Netflix, on a parlé d'Adult Swim beaucoup. Il y a un autre, et on a parlé aussi de BoJack Horseman, et il y a un autre diffuseur qui s'est récemment mis à l'animation pour les adultes, en plus avec un procédé qui est relativement peu utilisé, qui est le procédé de l'animation rotoscopique. Donc c'est une scénariste de BoJack Horseman qui s'appelle Kate Purdy, qui avait sa propre idée de série qui s'appelle Undone. La série, qui est en 8 épisodes, est dispo depuis début septembre. Sur Amazon Prime en France. On retrouve Rosa Salazar, que l'on a pu voir dans le remake de Alita Battle Angel, et également Monsieur Saul Goodman himself, Bob Odenkirk, donc excusez du peu. Et c'est une autre illustration, donc on parlait de Primal et du côté extrêmement dramatique et grave, et là pour le coup c'est vraiment un drama en animation rotoscopique, et je crois que autour de cette table virtuelle, Yves et Alexandre ont beaucoup aimé. Qui veut commencer?
Vas-y Alexandre, si tu veux.
Undone, du coup, c'est l'histoire d'Alma, qui est une jeune femme qui, un jour, après un accident de voiture, se découvre la faculté d'un petit peu de voyager par esprit à travers le temps et l'espace. Et elle rencontre aussi le fantôme de son père, qui a été assassiné ou qui est mort dans des circonstances étranges. Et elle va essayer de mener l'enquête avec lui, en fait, pour comprendre ce qui s'est passé. Et ce qui est très fort dans cette série, c'est que l'usage de la rotoscopie, qui, soit dit en passant, est une technique donc, du coup, qui consiste à redessiner, à filmer intégralement, enfin en grande partie, la série en prise de vue réelle, et ensuite à redessiner par-dessus pour donner un look animé. C'est donc une technique qui est vraiment à cheval entre le réel et l'imaginaire, qui a une inquiétante étrangeté, comme on disait tout à l'heure. Et là, elle est vraiment raccord avec le propos même de la série, qui s'amuse à troubler comme ça les frontières de la réalité des personnages. Donc je trouve que voilà, le choix de cette technique sert vraiment le propos de la série et permet d'alterner des séquences finalement assez réalistes, qui seraient tournées comme une fiction classique, avec des envolées imaginaires, des espèces de délires colorés, des paysages mentaux assez dingues. Donc ouais, c'est une série qui est vraiment très réussie.
Je suis complètement d'accord. C'est vrai que sur le concept, ce qui est, ça me faisait penser. Bah déjà sur la forme, il n'y a pas beaucoup d'exemples de séries qui auraient utilisé ce genre de système. Il n'y en a pas. Et le seul exemple qui me venait, c'était Scanner Darkly, un film là d'animation, pareil.
Richard Linklater, effectivement.
Ouais, à moitié animation, à moitié live, qui du coup, puisqu'il y a ce système en effet, comme tu l'écrivais, Alexandre, on a cette même idée là, qui a, au début, on a cette sensation que la série n'avait pas besoin de l'être animée parce qu'elle est elle est très très réaliste, très terre à terre. Et après, ça prend justement tout son sens quand le personnage commence à rentrer dans ses propres rêves et dans ses souvenirs, de travailler autour. Ça fait, là, on rentre vraiment dans un univers très proche de ce qui peut, d'auteurs comme Charlie Kaufman ou des films comme, qu'il a scénarisé comme Eternal Sunshine of a Spotless Mind, où du coup, on distord la réalité plutôt qu'on rentre dans un univers totalement différent. Là, on la modifie, on la transforme. Et pour le coup, c'est, c'est vraiment, enfin, ça prend tout son sens d'avoir une série de ce format-là avec ce type d'animation.
Enfin, si vous le voulez bien, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie perspective, puisque donc là on a évoqué pas mal de séries notables qui ont rencontré soit un succès public, soit un succès critique, et au moins outre-Atlantique, tout le monde veut un tout petit peu la part du gâteau que s'est accaparé Adult Swim. Et donc depuis la rentrée, Sci-Fi, donc le samedi soir, fait un bloc d'animation court qui s'appelle le TZGZ. Donc en fait, ça n'a pas de sens hors du fait que ce sont les lettres suivantes de SYFY. Et là aussi, la recette est un tout petit peu la même que pour Adult Swim, c'est-à-dire qu'ils vont donner un tout petit peu carte blanche à des studios d'animation américains indépendants, dont Cartoona qui est basé à Brooklyn. Et moi, donc j'ai pu voir les deux premières séries du bloc qui s'appelle Wildlife et surtout Magical Girl Friendship Squad. Donc ce sont deux colocs qui deviennent des super-héroïnes grâce à un pandarou au pouvoir divin. Là on parlait aussi de représentation, il y a aussi pas mal de thématiques queer, et il y a aussi une certaine inspiration de la BD indépendante américaine, hein, même si Magical Girl Friendship Squad n'est pas adapté d'un comic book indépendant, on retrouve beaucoup de cet esprit-là. Donc il n'y a pas là aussi, ce sont contrairement à Adult Swim, aux séries Adult Swim, en fait l'animation est un tout petit peu plus petit budget. Il n'y a pas beaucoup de moyens, mais il y a pas mal d'idées, il y a pas mal de personnages qui sont attachants. Il y a aussi Wildlife qui est beaucoup plus trash et qui est beaucoup moins réussi, donc je vais passer rapidement sur cette partie-là. Et de manière plus générale, donc il y a Prime Video donc qui a renouvelé par ailleurs Undone pour une deuxième saison et qui donc a greenlighté pas mal de séries d'animation adulte. Donc il y en a deux qui vont venir de Titmouse, dont on parlait tout à l'heure avec Black Dynamite. Je vais y arriver. Et on a aussi une série signée Robert Kirkman qui s'appelle Invincible, c'est Invincible, et il y a déjà un teaser qui est sorti et ça devrait arriver début 2021 sur la plateforme. Et de manière plus générale et de manière plus radicale, il y a Comedy Central qui est le diffuseur de South Park aux États-Unis qui va carrément réorienter une grosse partie de sa grille vers l'animation adulte. Donc pour être très clair, il y a une grosse partie des séries en prise de vue réelle qui ont été soit annulées, soit revendues à d'autres diffuseurs pour faire de la place justement pour des nouvelles séries animées. Alors, nouvelles, oui et non, puisque ce qui est annoncé, ce sont surtout des reboots de Beavis et Butthead qui étaient déjà revenus à l'antenne de MTV en 2012 pour une 9e saison que personnellement j'avais vue et que j'avais trouvé très réussie, mais qui n'avait pas assez marché pour avoir plus d'épisodes. Donc Beavis et Butthead, qui sont des personnages cultes de MTV, donc qui sont créés par Mike Judge, qui donc depuis a été vu aux commandes entre autres de Silicon Valley. Et il y a une autre série qui était une série diffusée sur une chaîne pour enfants qui s'appelle Nickelodeon, qui s'appelle Ren and Stimpy, mais qui était beaucoup trop trash pour un public jeune. Donc il va être rebooté aussi par Comedy Central, et aussi Daria. Alors, ça n'est pas exactement un reboot de Daria, mais c'est un reboot qui s'appelle Daria et Jody, où du coup, Jody, qui était l'amie noire de Daria, en fait, va avoir sa propre série, va être l'héroïne de sa propre série, et elle va être doublée par Tracy Ellis Ross de Blackish. Donc, tout ça, ce sont des choses qui ont été annoncées un tout petit peu en rafale à la rentrée dernière. Donc ce sont trois reboots qui vont tenir compagnie donc aux futures saisons de South Park, puisque je pense pas que la série va être annulée de sitôt. Est-ce que ils surfent toutes les trois sur la nostalgie des étudiants ou des adolescents qui regardaient ces séries-là dans les années 90 ou au début des années 2000. Donc est-ce que ça vous paraît une bonne idée de faire revenir, on va dire, ces reliquats des années 90?
bien m'exprimer là-dessus. Personnellement, je trouve que c'est assez cohérent dans la mesure où on peut dire qu'MTV a vraiment ouvert la porte à la série animée pour adultes, comme tu disais, avec Baby Sabathead, avec Daria. Donc là, on a une espèce de cercle qui se complète, en fait. On repart du début, on finit par le début. Donc effectivement, aujourd'hui, où la série d'animation revient à une certaine maturité, peut-être maturité qu'elle avait perdue peut-être à un moment donné, réévoquer les piliers que sont Daria, que sont Baby Sabathead et tout ce mouvement qui avait été initié par MTV me paraît assez cohérent au final.
Alexandre, Yves, si vous avez...
C'est vrai que là, il y a une quantité énorme de projets qui s'annoncent en termes de séries. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que j'ai l'impression qu'on reste quand même, au-delà du fait de ressortir des figures des années 90, on reste quand même globalement dans deux veines, dans deux types d'animation qui sont d'un côté ce qu'on appelle la sitcom d'animation, qui est celle-là de BoJack Horseman ou Simpson, avec quand même une animation assez plate, on sent les calques, peu de profondeur, plein d'éléments comiques et des aplats de couleurs. Et d'un autre côté, on a parlé de ces séries de Batman jusqu'à Primal qui sont plus sur l'action ou les trouvailles visuelles. Mais moi, j'attends des séries d'animation qui innovent en termes de narration ou qui innovent en termes de format, un petit peu comme ce qu'a fait Undone avec la rotoscopie. Le cinéma d'animation, c'est un cinéma qui est extrêmement riche en termes de technique. Et on le voit en France avec des cinéastes comme Michel Oslo ou comme des films comme J'ai perdu mon corps. Et on rêverait de voir des animations qui se lâchent un peu, qui tentent d'autres techniques, je trouve.
Whoa, how come it's all quiet and stuff? Where is everybody?
Oh yeah, I think like part of the end of the world is that like everybody's dead.
Oh yeah, yeah. Wait a minute, are we dead?
I guess not.
Oh, yeah.
Whoa, hey Beavis, I just thought of something. If everybody's dead, but we're not dead, you know what that means?
No.
We're the last people on Earth.
Oh, really?
We can go anywhere and do anything.
Yeah, anything.
There's no one to tell us what not to do.
Yeah, there's nobody to say, no, don't burn that, no.
Donc vous me direz c'est bien beau, mais l'animation adulte, est-ce qu'elle est présente ou est-ce qu'elle est vraiment en développement du côté de la France, qui est quand même en termes de prestige et en termes de production annuelle en leadership dans la production d'animation. La réponse n'est pas super satisfaisante, en tout cas pas à mon sens, puisque on est beaucoup bloqué sur des formats historiquement courts. Donc Canal+ avait les Cassos depuis deux ou trois saisons. Donc Arte a donné sa chance à De Gaulle à la plage et Silex Sand City, qui donc sont aussi plus ou moins adaptés de l'univers de la BD. Et France TV slash, même s'ils font pas mal de bruit avec les séries en prise de vue réelle, ont également quelques séries un tout petit peu plus confidentielles qui sont comme Monsieur Flap qui compte déjà trois saisons. Et le point commun entre tous ces programmes-là, c'est que ils sont vraiment dans des formats très très courts et donc consommables très rapidement, mais aussi assez oubliable, hein, et je sais pas si le bouche à oreille fonctionne vraiment comme il a fonctionné pour les Cassos à l'époque. Et Yves a également mentionné pendant la préparation de ce podcast Esther 12 ans.
Oui, qui sur Canal+, ils ont testé cette espèce de laboratoire un peu de projet court qui proposent des petites formules comme ça. On a l'impression que c'est pareil, c'est comme un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les formats américains. On ne sait pas trop pour qui c'est, parce que c'est vraiment très très court, très écrasé. Les Cassos, les Esther 12 ans, il y a Esther 12 ans, oui, qui est une adaptation de Riyad Satouf, donc qui est une BD très populaire qui pourrait très bien cartonner, mais qui est un peu cantonné à des zones de la chaîne ou qui permet pas d'exploser comme ça pourrait exploser vers une animation qui pourrait, et là pour le coup pour Esther 12 ans, être enfant, adulte, adolescent, qui pourrait vraiment devenir un très gros succès pour le coup, et du coup la plateforme ne le permet pas, je trouve. C'est le cas d'autres, les Cassos, qui a un peu une version, ça ressemble un peu à une version française et éclatée au niveau de l'animation de Robot Chicken presque, où on va dézinguer les héros de notre enfance dans la même idée, de les rendre très trash pour le coup. C'est tout ça, c'est des choses qui pourraient faire être de très gros succès et qui malheureusement n'ont pas la place, je trouve, qu'ils méritent ou qu'ils devraient avoir.
Et justement, on a mentionné les formats courts de Canal+ et Arte. Il y avait des formats un tout petit peu plus longs qui ont été tentés sur, on va dire, la chaîne morte vivante du service public number one sur l'animation jeunesse. J'ai nommé France 4. France 4, il y a quelques années encore, avait une case qui s'appelait Studio 4, dans laquelle était diffusé un patchwork de web-séries, Rick et Morty, et également des séries d'animation adultes qui n'ont pas trop fonctionné. Et France 4 a également diffusé les premiers épisodes d'une série que tu as beaucoup remarqué à l'époque et qui depuis est diffusée sur Netflix, qui s'appelle Last Man Eve.
Ça appuie complètement ce que je disais là juste avant, c'est-à-dire que Last Man, pour le coup, un super projet, très beau visuellement, super approche, qui en plus cherche à créer une autre histoire que celle de la BD à succès dont elle provient, donc pas à reproduire le même succès, les mêmes formes. Le style est différent, l'approche est différente de l'excellent comics manga qui a été créé par Bastien Vivès et ses comparses. Mais pour le coup, diffusion sur France 4, je fais partie des gens qui ont essayé de la mater sur France 4 à l'époque. Extrêmement difficile, des épisodes de 10-12 minutes.
Tu t'en es sorti quand même.
J'ai eu peur de rater des choses, en fait. 10-12 minutes qui s'enchaînent, donc il faut suivre, hein, ça se suit d'un épisode à l'autre. Pas de mini-séquences, pas tout ce qu'on dit justement sur toutes ces séries qui sont conscientes d'avoir un 10-12 minutes et donc de créer des histoires fermées à chaque fois. La semaine, ça s'enchaîne. Et en fait, finalement, c'est un film. C'est un long film qui a été diffusé sur 2 ou 3 soirées sur France 4 qui devenait et qui donc donne la longueur d'un film, un très bon film d'animation pour adultes, qui ressemble et qui pour le coup a trouvé, et c'est triste, n'a pas trouvé sur France 4 le public qu'il méritait, a eu le côté culte qui lui a permis en tout cas d'atterrir sur Netflix, où du coup là la diffusion est complètement est tout à fait beaucoup plus fluide pour le coup, puisque les épisodes s'enchaînent les uns derrière les autres. Il y a ce côté un petit peu pénible d'avoir 10 minutes, une pause, 10 minutes, une pause, alors que du coup, ils auraient dû en faire un long métrage, ce qu'ils ont dû faire d'une manière ou d'une autre. Mais il y a dû avoir des problèmes de production à un stade pour que ce format a vraiment gâché la fête, quoi, parce que ça aurait pu être vraiment je pense que Last Man, pour le coup, aurait pu être une date marquante, aurait pu être une série d'animation ou un film d'animation, pour le coup, marquant.
Et du coup, ça a été terminé, en fait, hein.
L'histoire est terminée, ils sont passés à d'autres choses d'ailleurs, il y a d'autres séries qui ont enchaîné derrière, donc Babalek notamment sur les Cassos, qui est donc aussi dessinateur qui est animateur sur Last Man. On est complètement sur un projet où on a l'impression que c'est un film en fait qui a été tronqué en tout petits morceaux, quoi, en fait. Donc accrochez-vous, quoi. Ça vaut vraiment le coup sur Netflix en ce moment.
Et on va continuer sur la même mélodie, la même petite musique de Netflix France, sauveur de l'animation adulte France, bien chez nous, notamment avec les projets du studio Bobby Pills. Donc, Ilan, tu voulais nous parler de ce studio indépendant et de Vermine, entre autres.
Alors, Bobby Pills, c'est un studio, effectivement, comme tu dis, d'animation indépendant qui était créé par Alexis Beaumont, Balak, Baptiste Gobert et Jérémy Perrin. Donc des noms qu'on retrouve déjà aussi dans Last Man et qui ont eux décidé de créer des programmes courts d'animation, mais extrêmement trash, qui sont allés beaucoup plus loin dans le côté iconoclaste, dadaïste, qu'on peut voir dans les productions animées habituelles. Donc ce sont vraiment des formats très courts qui sont mis sur une plateforme qui s'appelle Bobby Pills et qui est disponible via une application sur tablette et téléphone. Et donc parmi tous les programmes qu'ils proposent, on a effectivement Vermine, qui est une sorte de version trash de Zootopia, qui est une parodie de Cop Show avec des insectes à la place des flics, et c'est très drôle, c'est très irrévérencieux. Et dans le même esprit, le studio a voulu triturer encore d'autres sous-genres de l'animation, notamment Pipoudou et The Super Fuck Friends, qui est une espèce de version porno de programme pour les tout petits. Donc voilà, à ne pas mettre sous tous les yeux, sous peine de créer de sacrés traumatismes. Mais là où je trouve que le studio s'est vraiment dépassé, c'est avec Crisis Young, qui est une sorte de réflexion psychanalytique autour de la rupture amoureuse, où là on renoue un peu avec l'ambition formelle de Last Man, tout en renouant avec un esprit très psychanalytique, très dépressif, qu'on pouvait trouver effectivement dans séries qu'on a évoquées avant, qui étaient notamment BoJack Horseman par exemple. Donc je trouve qu'il y a un mélange entre deux sensibilités, ce côté extrêmement trash, encore une fois irrévérencieux, à la limite vraiment de la vulgarité, qui est un peu l'esprit Cassos, et l'esprit nihiliste très nihiliste américain qu'on peut retrouver dans BoJack ou Rick et Morty. Donc je trouve que Crisis Young, si vous avez l'occasion de le voir, je trouve que c'est un très bon programme.
C'est disponible dans tous les cas sur Netflix ou sur la plateforme.
Alors, sur Netflix, Crisis Young est disponible sur Netflix, oui. Sinon, les autres programmes sont disponibles sur l'application Bobby Pills.
D'accord.
En tout cas, ils n'ont pas tiré les leçons du format précédent sur Last Man, parce que là, on est sur des épisodes qui durent quelque chose comme 7 minutes apparemment.
Oui, mais c'est parce que ce sont des formats qui sont adaptés, des durées qui sont adaptées au format, à leur format de prédilection, qui sont les tablettes et les smartphones.
Ouais.
Donc
Netflix, donc ça tient.
Oui, donc la leçon dans le cas français semble être plus c'est court, plus ça dure.
Deux hommes dans un carré. C'est vrai que c'est simple. Qu'est-ce que je fous là ? C'est simple aussi. Peut-être le seul truc simple de ma vie. Le seul truc que je sais bien faire. Je vais péter la gueule.
On va rester sur Ilan, puisque on va passer donc à la dernière partie de ce numéro, qui est la carte blanche, donc dans lequel un membre de la CS donc nous présente une série récente ou moins qu'il a aimé ou détesté. Et dans le cas de Ilan, il n'a pas du tout aimé Ils étaient 10, qui est donc une adaptation de Agatha Christie, qui est diffusée d'abord en exclusivité sur Salto et qui débarquera probablement en rafale plus tard sur M6, et qui a été présentée au Festival de Fiction de La Rochelle. Donc pour une adaptation de Agatha Christie, j'ai l'impression que c'est un peu fait crister des dents.
Un peu, oui. Alors, Ils étaient 10. Alors, il faut savoir que, voilà, Ils étaient 10, c'est l'adaptation du roman Dix petits nègres d'Agatha Christie. La France était un des derniers pays à avoir gardé la traduction originale. Cet été, une nouvelle traduction. Pardon ?
Je vais oser le dire.
Voilà, qui a été la France a été un des derniers pays à garder cette traduction jusqu'à cet été où une nouvelle traduction est sortie.
Sachant que le générique de la série garde quand même d'après Dix petits nègres de Agatha Christie, donc c'était, j'ai envie de dire, un coup pour rien.
Voilà, exactement. Alors, ce qu'il y a, c'est que Ils étaient 10, c'est donc une adaptation des Dix petits nègres d'Agatha Christie par le studio qui nous avait déjà offert Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, qui était une variation autour des romans d'Agatha Christie, qui était diffusée sur France 2, France 3, je ne sais plus.
Et qui France 2, c'est qui continue d'ailleurs.
Voilà, continue, puisqu'il y a une troisième saison qui va arriver. Donc en fait, voilà, ce studio de production a obtenu les droits de 10 étés 10 et a créé sa propre version, qui est une mini-série de... de 6-7 épisodes avec un casting 4 étoiles, du Samuel Le Bihan, du Roman Boringer, j'en passe, c'est les meilleurs, Patrick Mill aussi, qui est un acteur comique qu'on a pu voir dans pas mal de comédies. Donc là, on a une espèce de version un peu trash au Koh-Lanta, un mix entre Saw et Koh-Lanta, ce qui pourrait être pas mal, mais il se trouve que le problème de la série tient autant dans son écriture qui est assez paresseuse que dans sa réalisation qui est très outrancière. Alors, à la réalisation, on retrouve Pascal Laugier, qui est réalisateur de cinéma, ancien grand espoir du cinéma de genre français qui nous avait offert notamment avec Martyr et qui depuis s'est enlisé dans la médiocrité la plus crasse et qui continue ici avec Ils étaient 10 qui vulgarise qui en fait le problème confond vulgarisation et vulgarité et nous offre une version d'Agatha Christie très pauvre et extrêmement pauvre dans la caractérisation de ses personnages, dans le ménagement de ses effets, dans l'écriture de son intrigue. C'est-à-dire que les personnes qui ont lu Ils étaient 10 devineront aisément qui est le tueur, puisque c'est l'histoire de 10 personnes qui sont invitées sur une île et qui, les unes après les autres, vont être victimes d'un mystérieux tueur, qui se trouve être l'un d'entre eux. Ce qui n'est pas un spoiler. Et voilà, donc tous ces effets, toutes ces choses concourent à avoir une espèce de version un peu d'Agatha Christie pour les nuls qui aurait pu être très bien si elle s'était accordée peut-être plus de liberté, plus de folie, et s'avait totalement assumé son genre, à savoir faire du slasher avec du Agatha Christie, ce qui ici n'est pas le cas. C'est à la fois du slasher, mais aussi un peu du soap et beaucoup d'effets grossiers pour rien.
Eh bien, merci Ilan Ferry donc pour ces dernières nouvelles de la création originale française. Ceci conclut le 109e épisode d'un épisode et j'arrête. Merci à Yves Lecor, que vous pouvez lire sur Brain Magazine et donc retrouver ses articles sur Twitter @@BrainMagazine. Merci à Alexandre Buyuko-Dabas, que vous pouvez retrouver sur Les Inrocs et aussi sur Twitter @AlexandreDabas, et Ilan Ferry dans Lire et sur Twitter @MadIlan. Et quant à moi, je suis Lord of Noise avec YZE à la fin parce que je ne fais rien comme tout le monde. Merci à notre partenaire Beta Série, merci donc au responsable à la technique. Vous pouvez retrouver ce numéro d'un épisode et j'arrête ainsi que tous les autres sur Deezer, sur Spotify et sur Apple Podcast. On a également une page consacrée à un épisode et j'arrête sur Facebook que vous pouvez retrouver assez facilement. Sur Twitter, c'est @unépisode et stop en toutes lettres. Et le Twitter de la CS, c'est @France_ACS. Et on est aussi sur Facebook. That's all, folks.
Un épisode et j'arrête. Une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio, et sur tous les agrégateurs de podcasts.